temps de création radiophonique. Là où l'écho écoute son propre souvenir.
Radia Show 1079, Floating Lessons par Radio Grenouille. Une pièce sonore réalisée dans le parc national des Calanques, dans le cadre d'un atelier avec des patients en psychiatrie sur l'écoute et l'enregistrement des sons sous-marins. Avec Aurélie Darbouret, anthropologue, Julie Rousse, artiste sonore, et Jean-Baptiste Imbert à la production.
Hello, this is a show from Radia. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners.
Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond.
Delta 2 Yankee, Delta 2 Yankee, Juliet Romeo.
Are you up for it?
La mer, pour moi, ça reste un milieu qui me fait un peu peur.
Des fois, si j'ai pas le moral, ben, je vais juste regarder la mer. Ça me fait du bien. Ça paraît idiot, mais c'est complètement... c'est quelque chose qui me revigore, qui me redonne de l'espoir, qui me fait voir un horizon éloigné, etc. Enfin, tout ça, quoi. Voilà.
À la plage des prophètes dernièrement, j'ai voulu mettre la tête sous l'eau quelquefois un peu. C'est vrai que c'est bizarre, je sais pas comment l'exprimer, c'est pas silencieux, c'est... Il y a un bruit, mais... Ouais, je sais... J'ai rien qui me vient à l'esprit, là. C'est pas le silence, parce que le silence, c'est vraiment autre chose.
Moi, j'entends quand même, mais c'est un peu ouaté, quoi, c'est plus grave. Et on a juste l'impression d'être d'un coup beaucoup plus loin de ce qui se passe.
Alors moi, j'adore la mer. Depuis tout petit, alors pendant l'été, on allait sur la côte avec mon père en Algérie et je me suis baigné tous les jours cet été et j'ai pas peur de la mer. Bon, j'ai peur s'il y a des requins ou des méduses, voilà, mais sinon j'ai pas peur.
En fait, il y a deux choses différentes. Si on est sur la mer au-dessus, on entend le bruit des gens, le bruit des bateaux, des planches à voile, voilà. Et si on fait un peu du sous-l'eau avec le masque et le tuba, et le truc, à ce moment-là, on entend plus grand-chose. Et donc, le moindre petit bruit, on le capte. Et si on voit un poisson, on imagine qu'il fait du bruit, mais en fait, c'est silencieux sous la mer. Et plus on descend au profond, enfin, moi, je n'ai pas descendu profond, mais si on veut descendre, après, c'est silencieux, quoi. Mais le son, il se propage différemment dans l'eau que sur l'eau, voilà. C'est deux perceptions.
J'ai fait beaucoup d'apnée. Bon, ben, j'en fais plus. Ok, mais j'ai fait beaucoup d'apnée et je ne sais pas comment dire. Il y a aussi cette deuxième expérience de s'abstraire du monde, finalement.
J'adore me baigner. Je me suis baignée tous les jours cet été. Je me baigne l'hiver. Mais Mais j'ai la phobie des poissons. Donc c'est un peu ridicule, ne vous moquez pas. Les requins sont des poissons, hein, Anita. Donc, et en fait, il faut pas. Je peux me baigner du moment que je vois pas le poisson. Si je vois la bête, je pars en courant. Donc j'ai un peu une appréhension pour demain, honnêtement. Mais voilà, du coup, j'ai pris l'habitude de me baigner sans mettre mes lentilles parce que je suis myope, pour justement ne pas voir. Donc je me dis peut-être que ça me rend plus attentive au son. Je déteste mettre la tête sous l'eau, mais bon, je l'ai déjà fait, je peux le faire. Ça va être un challenge, mais ouais, non, j'aime pas trop ça. Mais par contre, je me baigne tous les jours.
Du matériel qui va sous l'eau, du hydrophone, spécialisé pour aller sous l'eau.
C'est ça, les hydrophones, vous en verrez demain, c'est le but de l'atelier de demain. C'est vraiment des microphones qui ont été adaptés. Alors il y a longtemps, les premiers hydrophones, ils datent de la fin du 19e. Et on a adapté des microphones pour écouter sous l'eau. Mais on en reparle peut-être demain.
Le soleil au zénith, j'ai dévalé la pente pour gagner le rivage. Sur la plage recouverte de cailloux, de bois et de varechs enchevêtrés, j'ai posé mon sac. Je me suis dévêtue avec la hâte du désir vers la baignade. En m'immergeant dans le bleu intense, j'ai éprouvé la sensation fugace du déjà vécu. J'ai bien ajusté mon masque avant de plonger et de nager dans cet élan. Mon rituel pour conjurer le froid du premier contact avec les eaux. D'une apnée à une autre, un banc de poissons aux ailerons striés m'a effleuré le dos et je l'ai suivi plus loin, au hasard. Je jouais, testant des cabrioles sous l'eau, fixant tête en bas le soleil à travers la surface. Combien de hors-temps cette sirénade avait-elle duré ? Un corps plongé délicieusement dans du liquide n'est pas capable de mesurer.
Cette baignade, comment est-elle ?
C'est très beau déjà, très beau le paysage. Toujours un plaisir de se laisser porter par l'eau. Ça calme l'eau, ça. Et puis j'ai senti vraiment le crépitement un petit peu en beaucoup moins fort que tout à l'heure, mais on sent qu'effectivement il y a une activité sous l'eau, quoi. Après, j'ai ouvert mes yeux un peu, j'ose pas trop, parce que j'ai toujours peur de voir des poissons. J'ai ouvert un peu mes yeux, c'est beau. Hein.
J'ai voulu écouter le son des vagues sur les rochers, j'aime beaucoup ce bruit. Donc j'ai un peu longé les rochers en faisant la planche et j'ai été surprise d'entendre les mêmes crépitements que ceux qu'on entendait au casque. Ouais, on l'entend très clairement et je pense pas qu'on puisse entendre ça sur toutes les plages dans le coin. Ça doit être une particularité du Frioul parce que...
Puis il y a l'infini là-bas. Cette crique, une calanque, on appelle ça une calanque ou une crique ? Une calanque, oui.
Enfin, c'est très particulier parce qu'il y a très peu de végétation. On se disait tout à l'heure oui, que il y a quand même du vert. On voit du blanc, du gris et du bleu, je dirais. C'est étonnant, on n'a pas l'impression d'être à côté de Marseille. Là, il y a quelque chose de très désertique. C'est le bruit du ressac sur les rochers. Je sais pas comment décrire ce bruit. C'est comme, enfin, on entend une sorte d'écho, quoi.
J'ai fait la planche et mis un peu la tête dans l'eau et j'ai entendu ce crépitement, là, ce petit crépitement de beaucoup moins fort que tout à l'heure.
Tu as mis les oreilles dans l'eau ?
Oui.
Ah, mais ça va alors.
Oui, là. Et puis, ouais.
Raconte.
J'entends le ressac. Comment on appelle ça, le bruit des vagues de ressac ?
C'est comment ?
Ben, c'est régulier, c'est, ça calme un peu. Là, faudrait... Par contre, là, il y a eu une grosse vague, c'est un peu plus fort. Et fait, avant de s'endormir, il faudrait écouter ça. Mais de façon dégressive pour pouvoir s'endormir doucement, ouais, sans agresser les oreilles. Et c'est un bon truc pour se détendre, ça.
Si je le mets un peu plus bas, comme ça, c'est mieux pour s'endormir.
Ouais, c'est mieux pour s'endormir.
Puis, un bruit étrange, comme une basse de fosse émise du fond marin, a peu à peu dérangé l'équilibre aquatique. J'ai songé au moteur d'un petit bateau, mais non. Ce n'était pas la musique crachotante du kérosène sous le vent des remous. D'ailleurs, la surface de la mer restait lisse, et pourtant, par l'en dessous, une vibration dans les graves n'en finissait pas de monter en puissance. J'ai réalisé à quel point je m'étais éloignée du rivage. Une vague angoisse s'est installée et j'ai entrepris de regagner la plage. J'ai choisi de crawler avec régularité. Soudain, il y a eu une onde violente qui m'a fait dériver vers le large. Ayant repris la nage en direction opposée, je me suis contrainte à respirer le plus calmement possible. C'est alors que je l'ai entendu. Sur le moment, j'ai cru défaillir tant le son et la tonalité me paraissaient proches et familières. C'était une voix qui appelait, une voix d'homme, une voix vieille et ancienne, presque chevrotante. Cette voix résonnait partout dans l'air, les flots et au fond de ma tête. Je me suis mise à halter, je m'épuisais en mouvements désordonnés et plus je fermais les yeux, plus la voix m'appelait. Car c'était bien mon prénom prononcé à l'infini, qui avait envahi jusqu'à la mer et l'air.
J'enregistre, quoi qu'il arrive. Et là, c'est bien, ça marche.
Alors, on peut remettre les casques.
C'est normal. Oui. Alors, je vous invite à fermer les yeux et puis... Donc, j'écoute dans... Ouais, je comprends bien les craintes et les effrois qu'il peut y avoir autour de la mer parce que moi-même j'ai eu une phobie assez forte des fonds marins. Et il y a 10 ans quand je suis arrivée à Marseille, je ne pensais pas vous raconter ça aujourd'hui, mais quand je suis arrivée à Marseille il y a 10 ans, j'osais pas mettre un pied dans l'eau. Enfin, j'osais pas me baigner, je veillais toujours quand je me baignais à ce qu'il y ait des gens plus au large que moi, être plus près de la côte, etc. Et effectivement j'avais assez peur aussi des fonds marins. À un moment, j'ai décidé de soigner cette phobie, dont on m'a appris qu'elle s'appelait une thalassophobie. Et je l'ai soignée avec un soignant de l'hôpital de la Conception, justement. Et je crois que peut-être la recherche que je mène aujourd'hui, elle s'inscrit en fait dans la continuité de cette thérapie.
avec Aurélie quand on a eu cette première discussion où on s'est dit allez, on va se mettre sur un canoë et on va aller enregistrer du son à Sormiou. On a parlé de nos phobies de la mer et on s'est rendu compte qu'on avait les mêmes. Et puis en fait, moi c'est pareil, j'ai toujours eu en fait déjà, par exemple, ma terreur quand j'étais enfant, c'était la posidonie, qui aujourd'hui est un sujet de passion totale pour moi. Donc j'ai plus du tout peur, je vais même la chercher. Mais enfant, en fait, elle était très développée, très riche, elle était très belle et donc elle était très haute dans la mer. Et donc quand je nageais avec les jambes, je touchais toujours la posidonie, ça me terrorisait.
Je suffoquais, je résistais à l'appel. Quel était ce péril? Il en allait de ma vie peut-être, je ne savais plus. En tentant d'avancer pour rejoindre la plage, je prenais conscience de mon incapacité à remuer les bras et ne parvenais plus qu'à me débattre pour maintenir une flottaison. Dans cette lutte insensée entre la tête et le corps, je me paralysais de fatigue et de peur. La voix, cette voix, sa voix, résonnait à me rompre les tympans. C'était bien lui. C'était toi. Tu m'avais cherché, disais-tu, et tu voulais m'étreindre une dernière fois. Des cris jaillissaient depuis le bord. Les oiseaux tournoyaient en des rondes anarchiques au-dessus des flots. Le ciel s'était assombri. Un vertige me happait. Je sentis la caresse glacée sur mes cuisses, mon ventre et au fond de mon sexe. Mon corps, lesté de plomb, se mit à couler à pic. Je me sentais vide, absente, et m'abandonner à l'aspiration.
J'entends que à droite. Un bruit de l'eau, hein. Comme une cascade.
J'entendais des sortes de couinements, mais je sais pas si c'est mon imagination qui est partie, je sais pas où. Enfin, j'avais l'impression d'entendre des poissons effrayés, je sais pas, mais c'est peut-être qui c'était peut-être du cinéma. Ouais, j'entendais un petit coin. Enfin, je sais pas comment décrire ça, mais je suis pas sûre.
Ouais, il y avait une menace pour toi. Alors.
Ouais, j'ai senti une menace clairement. Enfin, en tout cas, quand le bateau est parti, le clapotis s'est fait plus fort. Enfin, l'espèce de bruit de fond.
Le crépitement dont on a parlé, le crépitement olympique.
Ouais, c'est ça. Comme si les poissons s'étaient réfugiés, avaient voulu se cacher et étaient ressortis quand le bateau est parti. Enfin, c'est mon interprétation.
C'est toujours c'est impressionnant. C'est vrai que ce bruit amplifié sous l'eau, et notamment des poissons, hein. C'est étonnant.
Il y a...
Non, mais des poissons, mais les petits trucs, là, les petits... Tout petits
les petits invertébrés.
C'est pas des poissons, ça, c'est pas des poissons.
Il y a un peu des poissons, il y a des crustacés, et il y a aussi des petits êtres unicellulaires là qui envoient un peu des bulles. C'est le vivant quoi en fait, hein. C'est tout ce qui crée de l'oxygène, voilà, qui utilise l'oxygène de l'eau et qui le transmet, qui sort des bulles et tout ça là.
Alors moi je serais incapable d'identifier précisément les sons qu'on a entendus. On peut identifier des familles de sons, effectivement reconnaître les sons qui sont de l'ordre de l'anthropophonie, des sons qui sont d'origine humaine. L'anthropophonie, c'est les sons qui viennent des activités humaines, donc notamment les sons des moteurs, hein, qui sont très puissants, on l'a vu. Et effectivement, quand ils disparaissent, bah, ça laisse, quand ils s'éloignent en tout cas, parce qu'ils disparaissent jamais vraiment, mais enfin ici en tout cas dans le port, quand le son de la navette a disparu, on a vu qu'il y avait d'autres sons, d'autres moteurs plus lointains qui prenaient le relais. Et quand ils s'éloignent, ça laisse surgir les autres sons qui occupent l'espace. Mais il faut savoir qu'il y a plus de 90% des sons de la mer. C'est un chiffre qui nous avait été donné dans une conférence à Marseille par une bioacousticienne qui s'appelle Lucia Di Iorio. il y a plus de 90% de ces sons qui sont inconnus encore aujourd'hui, dont on n'est pas capable de les nommer, on n'est pas capable d'identifier l'espèce précisément. En fait, le son des écosystèmes est aujourd'hui un marqueur aussi de la biodiversité et de l'état de santé de ces écosystèmes. Et donc même si on ne peut pas identifier très précisément les espèces et nommer quel poisson, quel crustacé est présent à tel endroit, on peut à partir de ces sons cartographier l'état. Enfin, quand je dis on, les bioacousticiens, les écoacousticiens arrivent à partir de ces paysages sonores à cartographier l'état de santé des écosystèmes. Il y a une superposition des sons et c'est ce qui se passe ici. Hein. C'est un espace qui est un mélange d'activités humaines, mais aussi de faune marine. Le pêcheur tout à l'heure avec qui je discutais sur la jetée disait non mais là c'est un port au large. Il disait qu'il était en train de pêcher le tassergal, le barracuda. Il disait non mais là c'est un port ouvert sur le large. Donc effectivement c'est ce mélange en fait des mondes qu'on entend à cet endroit.
Ce qu'il y a de plus fascinant finalement, c'est ce caractère d'imprévisibilité. C'est imprévisible. Par exemple, moi j'ai failli me noyer. Ça m'est arrivé. Il y a une plage qui s'appelle la plage de la Batterie à Marseille, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est avant la plage du Bain des Dames. C'est une petite plage où, quand il y a un certain vent de Mistral, on ne peut pas revenir. D'accord ? Les vagues, elles vous emportent loin. Je me suis laissée porter. Dériver un petit peu, et il y a un gars, un plongeur qui était là, qui est venu, comme il était assez lourd et tout, il m'a tiré. Voilà. Et c'était imprévisible.
Ce n'est que lorsque mon masque s'est soulevé que j'ai vu le regard, ce regard, ton regard d'aimant. Un sentiment de panique m'a transpercé. Je t'avais reconnu. Tu as saisi ma main et l'as caressée doucement. L'oxygène s'est mis à manquer, mes tempes se congestionnaient du sang comprimé, mes poumons explosaient et dans un coup de rein inespéré, je me suis propulsée vers le haut. La première fois, j'ai trouvé la surface en cherchant douloureusement l'air qui s'offrait. Ta main s'était agrippée à la mienne et me tirait à nouveau vers le fond. Je replongeais. Dans un effort désespéré, j'ai violemment rué et le contact avec l'abîme s'est rompu dans un craquement sourd. La seconde fois, la tête hors de l'eau, j'ai inspiré à en mourir. Sur la plage, ils m'ont étendu. La sirène de l'ambulance retentissait. Des badauds s'étaient regroupés et certains d'entre eux laissaient échapper des phrases étranges. Je ne comprenais plus le sens des mots. Une épaisse couche de brume m'enveloppait. Un visage inconnu s'est penché sur le mien en prononçant des paroles, enfin intelligibles. « Ne craignez plus rien, madame. Je suis secouriste. Vous avez été prise dans un séisme de petite magnitude. C'est fréquent sur cette côte. Vous le saviez ?»« Non, j'ai cru... » Et je murmurais. Les gens d'ici l'appellent la caresse du monstre. Tout ira bien. Vous êtes sauve.
Est-ce que c'est différent de ce qu'on entendait dans le port ? Est-ce que c'est différent vraiment de ce qu'on entendait dans le port tout à l'heure ?
On entend plus distinctement les petits crépitements, je trouve.
Ils les entendent.
Il n'y a pas le bruit des bateaux. Il n'y a pas le bruit des bateaux, donc on entend beaucoup mieux les crépitements. Là.
Et l'hélicoptère, on l'entend pas.
Comment ?
T'entends pas l'hélicoptère ?
Si, si, j'entends l'hélicoptère. Mais pas à l'intérieur, là, à l'extérieur.
Non, 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 non. Pas d'avion sous l'eau.
J'ai l'impression d'entendre la bouée. Que elle nage près de la bouée jaune et c'est comme si de l'eau tapait sur une bouée.
Là, nous écoutons en direct ce qui se passe sous le fond. Anthropophonie, chapitre 1, la sonnerie de téléphone.
Vagues rapides, gros bruit de vagues rapides.
On a parlé du titre du projet. Toi, Jean-Baptiste, tu avais proposé un titre, mais je sais pas ce qu'il dit. Écoute l'OTAN, toi, je trouvais ça bien, moi.
Écoute flottante. Avec Julie Rousse, artiste sonore. Aurélie Darbouret, chercheuse anthropologue. Les participants de Radiola, Fanny Osei, Yves Seksek, Anita Linskog, Sylvain Vicarini, Yacine Djemli. La nouvelle « La caresse du monstre » de Anita Linskog, élue par Nelly Fleischer. Captation sous-marine, Julie Rousse. Réalisation, Jean-Baptiste Imbert. Écoute flottante. Un projet proposé par Radio Grenouille Euphonia et soutenu par le Parc National des Calanques dans le cadre de son appel à projet Culture pour l'automne des Calanques 2025.
End of transmission. Find us on the internet, radia.fm. Over and out.